Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'Intégration, un projet piloté par O2 Radio en partenariat avec L'Autre Rive et cofinancé par le Fonds Européen d'Intégration. Tout le détail de cette action est disponible sur notre site odoradio.net, onglet FEI. Du mois d'avril au mois de juin, nous travaillons sur la culture. Pour ce troisième mois, nous parlons de l'interculturalité. Tout de suite, je vous propose d'écouter une émission présenté et animé par Jean-Christophe Blancan, avec Patrick Duval, directeur de musique de nuit, en charge de la programmation artistique du Rocher de Palmer, Charlotte Houni, directrice de la Biennale Panorama, et Anne-Laure Boyer, artiste plasticienne. Très bonne écoute sur O2 Radio.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les deuxièmes jeudis de chaque mois notre question d'actualité soumise aux quatre médias. Donc les quatre médias en partenariat avec Le Courrier de Gironde, représenté par Hugo Hamès. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Les quatre médias toujours avec Aki.fr, représenté aujourd'hui par Lise Galistre. Bonsoir Lise.
Bonsoir.
Bon, on salue, on excuse Joël Aubert. Et les quatre médias aussi représentés et en partenariat avec l'Écho des Collines, Jacques Brunet ce soir.
Oui, bonsoir.
Voilà, et pour finir évidemment ce tour de table, O2 Radio. Donc ce soir, la question d'actualité soumise aux quatre médias va être la question de la culture, et plus exactement le développement de la culture sur notre territoire de la rive droite de l'agglomération bordelaise. Alors pour ce faire, nous avons invité plusieurs personnes autour de ce plateau. Nous avons d'abord invité Patrick Duval. Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Patrick Duval, vous êtes le directeur évidemment historique de Musique de Nuit. Alors Musique de Nuit que beaucoup de personnes connaissent ici sur la communauté urbaine de Bordeaux, l'agglomération bordelaise et au-delà, bien entendu, initiative et porteur du Festival de Haute-Garonne depuis de nombreuses années, mais aussi le Carnaval des Deux-Rives. Et depuis bientôt 4 ans, je crois, Patrick, je pars sous votre contrôle. Voilà, vous êtes chargé évidemment de la programmation artistique de ce bel outil de diffusion culturelle qu'est le Rocher de Palmer à ce nom. Alors, nous avons aussi invité Anne-Laure Boyer, artiste plasticienne, mais connaissant bien la rive droite, vu que vous y travaillez, je crois savoir, Anne-Laure, depuis 2008. Bonsoir Anne-Laure Boyer.
Bonsoir, tout à fait, depuis 2008.
Alors, nous avons aussi, pour clôturer ce tour de table, invité Charlotte Houni, la directrice de la Biennale culturelle de la rive droite, la Biennale Panorama. Alors, bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Alors, on n'oublie pas de dire que ce projet est initié et toujours porté par le JIP-GPV, évidemment, bassin, ce nom, Florac-Lormont. Alors, la culture, évidemment, on pourrait faire beaucoup d'émissions sur ce thème. Hein, même, je crois savoir qu'il va y avoir certainement des sujets de bac philo qui vont tomber, évidemment, sur la culture, comme chaque année. Mais bon, quelques indications tout de même sur le mot. Et le mot culture vient du latin, hein, colere, qui veut dire cultiver la terre. Alors, cette analogie entre le travail de la terre, l'agriculture, donc, et le travail de l'esprit, la culture, nous la devons aux Romains. Hein. D'ailleurs, la culture au sens romain supposait le retrait aussi bien de la vie publique que de toute espèce d'activité pratique. Et donc, l'assimilation de la culture était plutôt au loisir, comme une activité désintéressée, essentiellement tournée vers l'enrichissement moral, intellectuel et spirituel de soi. Voilà, alors aujourd'hui, quand on parle de culture, on entend plutôt parler aussi d'économie. Et c'est d'ailleurs un peu cet angle qu'on va prendre pour introduire ce sujet. Alors justement, parlons de la culture et du produit intérieur brut. Font-ils bon ménage en France? Alors, si l'on en croit une étude conjointe réalisée par les ministères de l'économie, des finances et le ministère de la culture à la fin de l'année 2013 et rendue publique au début de cette année 2014, la culture contribue 7 fois plus au produit intérieur brut français que l'industrie automobile. Alors oui, effectivement, on n'entend pas ce genre de nouvelles tous les jours. Et donc avec 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée par an, alors que son coût total pour la collectivité, lui, approche seulement 21,5 milliards d'euros. Alors, que nous dit ce dernier rapport, hein? Alors selon ce rapport, la culture contribue, donc on l'a dit, à hauteur de 57,8 milliards d'euros au PIB. Il s'agit de la valeur ajoutée directe. Et vous allez voir qu'indirectement, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire du seul fait des activités culturelles, ce qui équivaut à 3,2% du PIB, 7 fois donc la valeur ajoutée à l'industrie automobile. Ces chiffres sont basés sur les calculs de l'INSEE, voilà, vénérable institution. Donc le chiffre ne paraît pas exagéré, puisqu'une autre étude du cabinet privé Ernst & Young, parue en novembre, lui évalue le chiffre d'affaires direct des industries culturelles et créatives à plus de 61 milliards, et ce qui équivaut à 670 000 emplois directs. Alors les choses sont dites, la culture rapporte à la France, et pas seulement de l'argent, mais aussi des emplois. Les seules entreprises culturelles emploient, donc, on vous l'a dit, 670 000 personnes en France, que leur profession soit culturelle ou non, soit donc environ 2,5% de l'emploi salarié dans le pays. À cela s'ajoutent les 870 000 professionnels à culture qu'emploient les entreprises non culturelles. Alors, le but d'une telle étude, on peut le dire, inédite, qui allie ces deux ministères, à la fois l'économie, les finances et la culture, mais c'est de pouvoir expliquer finalement que le meilleur moyen de faire reconnaître le poids économique de la culture, c'est justement de s'allier au ministère de l'économie et des finances pour voir son impact sur l'économie. Mais pour avoir une vision claire de cet impact économique, justement, des activités de la culture, il fallait déjà définir ce que sont ces activités. Chose qui, étrangement, au pays, l'exception culturelle n'avait jamais été faite. Et il a donc fallu s'appuyer sur des méthodologies de l'Union européenne et de l'UNESCO, comme bien souvent en France. Résultat, donc, l'étude prend en compte les valeurs ajoutées du spectacle vivant, du patrimoine, des arts visuels, de la presse, du livre, de l'audiovisuel, de la publicité, de l'architecture, du cinéma, des industries de l'image et du son, ainsi que l'accès au savoir et à la culture, c'est-à-dire les bibliothèques ou encore les archives. Alors l'intervention de l'État pour 13,9 milliards sur les 57,8, on va voir qu'il y a aussi des interventions des collectivités territoriales, donc un panel large et qui permet à la fois de savoir ce qui rapporte, mais aussi ce qui coûte, car l'étude a pris aussi soin de calculer ce que l'État et collectivités territoriales dépensent dans la culture. Donc l'intervention de l'État, on le disait, c'est 13,9 milliards d'euros par an, et celle des collectivités territoriales, c'est 7,6 milliards d'euros, donc une part en dotation de l'État, donc des dépenses justifiées par l'intérêt que représentent ces activités culturelles pour l'économie, selon, on cite, le cabinet du ministère de la Culture, c'est-à-dire en charge d'Aurélie Filippetti. Donc l'audiovisuel est le secteur qui capte le plus de soutien de l'État, ça c'est intéressant aussi, où va l'argent finalement de l'État dans les différents secteurs de la culture. Donc c'est à l'audiovisuel qui capte 5,5 milliards, notamment grâce à la redevance, bien entendu. Les secteurs les moins aidés sont les industries de l'image et du son, l'architecture, le livre, les arts visuels. Donc on pourra en discuter autour de ce plateau. La part de la culture dans la valeur ajoutée a régulièrement augmenté entre 1995 et 2005, date à laquelle elle atteignait d'ailleurs son maximum, c'était 3,5%. Mais depuis 2005, donc, elle a reculé de 0,3 points. Alors cette érosion peut s'expliquer par rapport à cette transition numérique et notamment l'évolution des marges, l'effondrement du marché du disque, la mutation de l'électorat, la crise économique et aussi la captation d'une part de la valeur ajoutée. On parle des plateformes numériques, et évidemment on en parle beaucoup, que ça soit Apple ou encore Google ou encore Amazon, qui sont chargés de l'intermédiation entre les créateurs et les consommateurs. Donc apparemment, ils capteraient une bonne partie de la valeur ajoutée à travers ces plateformes. Alors évidemment, un enjeu d'autant plus important que les activités culturelles ont aussi un effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Hein. Et ça, c'est de l'ordre de 46,7 milliards, donc à rajouter. Donc, grâce aux activités induites, comme les matériaux utilisés, notamment les loyers, l'électricité, et alors au total, l'apport de la culture à l'économie, y compris ces effets d'entraînement dont on vient de parler, atteint donc les plus de 100 milliards, c'est 104,5 milliards. Donc, soit 5,8 de la somme de toutes les valeurs ajoutées, donc ce qui est par définition le produit intérieur brut. Alors, on le voit bien, peut-être qu'on va partir là-dessus, hein, on le voit qu'il y a une corrélation intéressante et même positive, donc entre la présence d'une implantation culturelle, on pense au Rocher de Palmer notamment, et le développement socio-économique d'un territoire, et on le voit à travers cette étude, et on voit qu'il y a une corrélation directe et positive. Alors, peut-être qu'on pourra commencer là-dessus, mais on va profiter de ce plateau, la richesse de ce plateau et des invités présents pour pouvoir aborder en ces temps d'austérité budgétaire, finalement on entend parler tous les jours, la culture n'y échappe pas évidemment, à la baisse des dépenses publiques qui touche la quasi-totalité des ministères et bien sûr celle des collectivités. Donc même au moment où on parle, donc le statut des intermittents est remis en cause déjà depuis plusieurs mois. D'ailleurs, l'ouverture de la saison des festivals connaît ses premières perturbations avec des annulations ou encore des annonces de problèmes, notamment pour des festivals importants cet été. Alors dans ce contexte, on verra ensemble si vous êtes d'accord déjà avec les résultats de cette étude quant à l'impact positif sur l'économie d'un pays, et on parlera sur l'économie évidemment du territoire de la rive droite. Si pour vous la culture est un luxe, ou encore si pour vous la culture a un prix, comment on le quantifie, parce que bien évidemment ça va au-delà de l'économie, et si oui, mais donc quel prix a la culture, et encore peut-être si on a le temps, donc est-ce que la culture pour vous est une marchandise, et si oui alors est-ce que c'est une marchandise comme les autres? Excusez-moi. Donc peut-être on va commencer avec vous Patrick Duval. On l'a dit, directeur de musique de nuit, donc en charge de la programmation artistique du Rocher de Palmer depuis bientôt 4 ans, je crois, Patrick. Mais évidemment, au-delà, avec une histoire très riche, et notamment avec la création du Festival des Hautes-Garonne, qu'on va retrouver évidemment cet été, le Carnaval des Deux-Rives, j'en passe, les ateliers, beaucoup, beaucoup de choses avec les habitants. Non, Patrick, alors c'est vrai que c'est pas habituel de prendre ce biais-là pour aborder un sujet comme la culture, le biais économique. Mais bon, hein, comme on entend parler tous les jours de baisse de budget, de faire attention à la dépense publique. Bon, pour une fois qu'on peut dire que la culture rapporte de l'argent au pays, on s'en est pas privé, Patrick Duval. Alors peut-être votre premier sentiment là-dessus sur le résultat de cette enquête, conjointe, on l'a dit, ministère des Finances et de l'Économie, mais aussi ministère de la Culture. Un mot évidemment sur musique de nuit, et puis sur finalement cette corrélation qu'on a dit positive entre l'installation et la pérennisation d'un outil culturel sur le territoire et finalement l'économie, l'impact sur l'économie de ce même territoire, Patrick.
Non, moi je trouve que cette étude justement est très intéressante. L'entrée économique ne me dérange pas du tout. Je tiens déjà à ce que ça soit un préalable. Moi, je suis pour que, justement, on mette sur la table aussi le coût des choses et qu'on regarde aussi l'entrée économique quand on parle culture, qu'on arrête aussi d'être constamment sur une vision complètement subventionnée de la culture. Aujourd'hui, je pense que c'est... effectivement, ce modèle est à revoir. En tous les cas, il n'est pas suffisant. Il faut vraiment le revoir. Ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à tout ce qui a été dit, au poids, tout à l'heure tu faisais le parallèle avec le Rocher de Palmer, bah effectivement dans quelques années je pense qu'on pourra mesurer par exemple quand on fera une étude, il y a bien des gens qui vont le faire, le poids du Rocher de Palmer sur la rive droite. Alors le poids c'est pas simplement économique, parce qu'il est peut-être relatif, quoique je pense que ça génère... peut-être des chiffres d'affaires en augmentation.
Il y avait les prestataires de services.
Dans les kebabs autour aussi. Dans les restos sur la rive droite. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi une plus-value en termes d'image, en termes de mixité de population. Je suis certain qu'il y a des gens aujourd'hui qui
découvrent la rive droite grâce au
Rocher. Qui découvrent la rive droite et qui effectivement s'installent à ce nom, notamment parce qu'il y a le Rocher. Enfin, j'en connais quelques-uns, donc indirectement. Donc je pense que voilà, il y a aussi tous ceux qu'on ne connaît pas. Donc je pense que ça génère forcément ce type de choses. Après, au-delà de cet aspect-là, culturel, effectivement, on y est en plein. On y était encore, nous, enfin, j'étais à titre personnel hier soir, puisqu'on co-organisait avec l'Opéra de Bordeaux le concert de Wayne Shorter, qui a manqué être bloqué par les intermittents.
Ah, merci Patrick pour ce témoignage très frais. Merci.
Voilà. On vous donc, écoute. Donc, le concert, il n'a pas été bloqué. Parce que,
dernièrement, il y a eu un arrangement.
Il n'y a pas eu d'arrangement. L'arrangement, ça a été l'intervention des CRS. Je veux dire, puisque du côté des intermittents, il y avait refus de discuter et de trouver un accord. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'accord, on ne discute plus. Je veux dire, on a cependant quand même donné la parole. voyez comme quoi on est relativement magnanime, donner la parole à un représentant des intermittents pour qu'il puisse expliquer les revendications actuelles. Mais effectivement, je pense que le blocage, voire l'interdiction d'événements culturels est sans doute la pire des entrées qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est le mauvais moyen de pression.
On pense à des festivals comme Avignon, on a encore entendu ce matin qu'il
Après, ça m'amuse les réactions d'Olivier Pied de la maire d'Avignon qui sont en train de crier « on est solidaire » pour pas que ça soit foutu en l'air par les intermittents. Bon, donc, mais au-delà de ça, je crois que c'est sur les politiques qu'il faut faire pression. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si les syndicats qui dits représentatifs des intermittents, je pense à Sud et à la CGT qui hier soir étaient présentes devant l'Opéra, devant l'auditorium. Alors effectivement, symboliquement, on a l'impression qu'on s'attaque à la bourgeoisie, mais au-delà des symboles, et c'est quand même, c'est plutôt les politiques qu'il faut interpeller. Je veux dire, il y en a ici des politiques en région qui ont une oreille auprès du gouvernement actuel. C'est peut-être sur eux qu'il faut faire pression. Il y a peut-être des motions de solidarité demandées à des élus à la région, au département ou ailleurs.
Quand on voit l'impact sur le territoire,
Bien sûr. Est-ce que c'est en bloquant Chahut ou en empêchant Wayne Shorter de monter sur scène, est-ce que vous croyez que ça va empêcher Aurélie Filippetti de dormir ou le MEDEF? Absolument pas. Je pense que d'ailleurs, ils s'en fichent totalement de ça. Par contre, s'il y a des motions de soutien qui arrivent signées par des élus représentatifs, on a des députés, on a des sénateurs ici, on a un président de conseil régional, un président de conseil général, ben peut-être que ça aura un autre poids. Voilà. C'est juste ça, c'était une parenthèse sur les revendications des intermittents qui sont au-delà de ça légitimes, puisque bien évidemment, on est en train de resserrer le système pour faire que ceux qui vont être indemnisés sont ceux qui, de toute façon, travaillent le plus. Voilà. Bon. C'est-à-dire ceux qui s'en sortent déjà s'en sortiront encore mieux. Voilà. Ouais, et les autres vont être à la ramasse.
On va continuer à précariser les plus précaires.
Nous, on a vu au fil des ans ceux de les plus bas. Je pense par exemple à ceux qui étaient rôdes sur les concerts, manutentionnaires, quoi. Ils ont disparu, ceux-là. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Enfin, ils ne sont plus du tout dans ce secteur-là. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tous les cas, ils ont disparu. Parce qu'effectivement, ces gens-là n'avaient jamais assez d'heures. Au fond, ceux qui ont des heures, ce sont les techniciens habitués, on va dire, des institutions, comme le Rocher, par exemple, qui est quand même un gros pourvoyeur d'emplois d'intermittents. Il faut juste le rappeler, comme l'Opéra de Bordeaux, d'ailleurs, et pas dans les plus mauvaises conditions. Au contraire, même, en termes de salaire. Donc, je crois qu'effectivement, bien sûr que la cause est légitime, la revendication est légitime. Je pense que la méthode choisie est une très mauvaise méthode, mais très mauvaise. Elle ne peut que fragiliser encore. Alors, bien sûr, vous allez me dire fragiliser Opéra, c'est relatif. Oui, bien sûr, on peut. Mais je veux dire, on peut fragiliser le Rocher. Je veux dire, si effectivement...
Ou d'autres festivals, d'autres manifestations.
Je veux dire, est-ce que Chahut a les moyens aujourd'hui de voir, par exemple, le festival annulé? Je suis pas sûr, moi, de ça. Je suis pas sûr du tout. Donc, faut quand même bien réfléchir, quoi, aux méthodes de pression, quoi. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la méthode choisie n'est pas la bonne, vraiment.
Donc Patrick, ça, c'est la parenthèse sur les intermittents. Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, je vous retrouve, Patrick, et je vois que votre casquette de militant de la culture, on n'est jamais très loin. Effectivement, pouvoir à la fois faire pression sur les politiques comme interlocuteur direct, et tout en étudiant de près vraiment le statut des intermittents qui effectivement sont indispensables à la bonne marche de toute cette diffusion de la culture. Alors peut-être oui, un premier mot avec Hugo Hamès avant de passer la parole à Charlotte et continuer le tour de table, Hugo.
Oui, là on parlait de l'impact économique que représente un établissement culturel sur un territoire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir Quelle influence peut avoir un territoire sur la programmation d'un établissement culturel? Est-ce que au fil des 4 ans d'existence du Rocher de Palmer, est-ce que la programmation a changé du fait de la faible affluence dans certains concerts et de l'affluence?
Alors c'est vrai que c'est intéressant cette question, l'interaction entre la programmation et le territoire, mais là on est en plein dedans avec Musique du Monde et le Rocher de Palmer.
Alors, tout à fait. Alors au-delà de ça, ce qui est important dans votre question, c'est la question bien sûr du rapport au territoire, donc aux habitants. Et ça, cette question, elle me paraît aujourd'hui fondamentale. Et je pense qu'après le résultat des municipales qu'on a vu et le résultat des européennes, si les politiques qu'on a élus ne tirent pas les leçons, et visiblement ils ne tirent aucune leçon de ce qui est en train de se passer, donc avec une montée du Front National qui paraît inexorable, hein, je veux dire, donc je crois qu'effectivement la seule réponse, c'est de développer encore plus ce rapport aux habitants. Et là, je crois que nous, Et le nous, il est collectif, il est responsable d'institutions culturelles, de festivals, de manifestations culturelles, quelles qu'elles soient. On a une très grande responsabilité. Et effectivement, je pense que si, comme ça s'est vu par le passé, et ça se voit toujours, on mène certains projets sans se soucier de la population, effectivement, on va dans le mur. Et effectivement, on sert le Front National, très clairement, qui va continuer à parler de culture élitiste, etc. On doit se préoccuper des populations. Alors c'est sûr, c'est pas la partie la plus facile, c'est pas la partie la plus sexy, comme diraient certains, ou la plus fun, c'est vrai. C'est beaucoup de temps passé. Mais si on ne fait pas ce travail-là, qui est un vrai travail de fourmi, pour amener 10 personnes à l'auditorium sur un concert, 10 personnes du quartier Palmer qui étaient invitées, on a dû passer, je ne sais pas combien
de réunions, plusieurs jours, plusieurs personnes. Oui, mais sans compter que des fois, Patrick, c'est vous qui faites l'effort d'aller directement chez l'habitant.
Oui, tout à fait. Mais en tous les cas, c'est important de faire ce travail de fourmi.
Ça donne du sens à tout le reste de l'action aussi.
Exactement, Patrick. Mais on doit tous le faire. Tous, y compris les plus grandes institutions. Ouais, c'est-à-dire qu'on doit se préoccuper du quartier sur lequel on est. Moi, je suis sidéré, je le dis, parce que ça fait des années, depuis 4 ans que le Rocher est ouvert, je vois affluer au Rocher un nombre assez impressionnant d'associations, de centres sociaux, de centres d'animation qui viennent de Pessac, qui viennent de Mérignac, qui viennent de Bègle.
Paradoxalement, moins de la rive droite, tu voulais dire, Patrick?
Non, de la rive droite aussi, bien sûr. Non, mais je veux dire, qui viennent de toute l'agglomération. Voilà. On a l'impression qu'on est le seul équipement à pouvoir les accueillir. Sur toutes ces villes, il y a des équipements culturels. Quel est le travail qui est fait?
Le lien n'est pas fait.
J'en sais rien. Ce que je vois simplement, c'est que Promo Femmes, qui est une asso du quartier Saint-Michel,
vient très régulièrement
ici. Hommage, qui est une asso qui travaille avec les vieux Marocains à la retraite qui sont sur Bordeaux, vient très régulièrement au Rocher de Palmer. C'est juste les questions que je me pose. Voilà. Alors je renvoie ça à la responsabilité des autres, chacun. Une fois que j'ai dit ça. Juste pour terminer, ce matin, il y avait une interview très très intéressante de Jacques Lang sur France Inter.
Oui, tout à fait. Qui a pris la défense des intermittents.
Bien sûr. Qui a rappelé aussi qu'en 92, période de chômage intense dans ce pays, le budget de la culture avait augmenté. Et aujourd'hui, on est en train de baisser de plus de 60 millions d'euros le budget du ministère de la Culture. Voilà, c'est tout. Et on a un gouvernement de gauche aussi.
Alors que chiffre à l'appui, on sait que ça rapporte, quoi.
Mais on sait aussi que si on veut lutter contre la montée, effectivement, du front des extrêmes, de la radicalisation des comportements, etc., c'est par la culture qu'on peut y arriver.
On le voit,
les
associations disparaissent, on le sait, par manque de financement. Maintenant, la diffusion de la culture devient problématique. Donc,
il y a de moins en moins de financement pour l'action culturelle, très clairement. Il faut savoir aujourd'hui que les crédits politiques de la ville n'existent pratiquement plus. Je pense que vous êtes aussi bien placé que les autres pour le savoir.
Bon, très bien. Il fallait que ça soit dit. Peut-être, Jacques, une réaction avant de passer la parole à Charlotte.
Je voulais témoigner. Là, vendredi dernier, nous étions en visite avec un petit groupe de jeunes primo-arrivants. C'était extraordinaire. C'était plein de tous les côtés. Les trois salles étaient occupées en parallèle avec des jeunes. On n'a pas pu voir la sieste musicale. Enfin, voilà. Et je crois que c'est un travail vraiment à saluer. Et c'est ça qui est positif.
Bon, voilà, donc effectivement, le témoignage de Jacques, on était en visite ce vendredi dernier sur un projet, effectivement, et on a pu constater toute l'activité, évidemment, toutes les personnes de tous les âges présents sur quelques heures sur le Rocher de Palmer. On va passer tout de suite la parole à Charlotte Uny. Charlotte, rebonsoir. Donc Charlotte, on l'a dit, vous êtes directrice de Panorama, la biennale culturelle de la rive droite, donc évidemment initiée par le JIP-GPV. On salue Étienne Parrain et toutes l'équipe du JIP-GPV. Alors, voilà, en écho à ce qui a pu être dit en présentation de cette émission ou encore au propos de Patrick Duval, l'importance de cette biennale, justement, en tant qu'outil, peut-être, alors, de valorisation du territoire, voire de son développement, Charlotte. Et évidemment, on reviendra dans un deuxième temps sur le calendrier de la biennale. On rappelle les dates, ça sera le 27-28 septembre, mais beaucoup, beaucoup de choses sont déjà lancées depuis l'inauguration d'un local à Lormont, on y reviendra tout à l'heure. Et puis évidemment, tout cet été, un programme qui nous amènera jusqu'au 27 et 28 septembre, les deux dates phares pour cette biennale Panorama, 3e édition. Charlotte.
Alors, moi, je peux que rebondir sur les propos de Patrick.
Oui, sans langue de bois en plus, voilà, on l'a vu, Charlotte. Oui. Donc, on continue sur la lancée.
Moi, je me tiens bien. effectivement, si... si on renonce à la culture et à l'éducation, et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, on renonce à des choses vraiment importantes. C'est un projet de société qu'on met en danger, qu'on met en jeu, et auquel visiblement tout le monde, personne n'a l'air de tenir plus que ça, à part quelques-uns. Hein. Voilà, donc c'est grave ce qui se passe. Enfin,
bon,
voilà.
il faut le dire au moment donné.
Au-delà des chiffres, au-delà de l'économie, il se passe quelque chose de grave, parce qu'on renonce à ce qui fait le sel de ce qu'on est. Enfin,
oui, et puis et j'ai même envie de dire, ouais. Charlotte, même à l'international, pourquoi on est connu, la France ? On n'est pas connu pour notre grande armée, on n'est pas connu pour notre grand génie technologique, on est connu pourquoi ? Pour la culture, finalement. Hein. La culture française a encore irradié pour d'autres choses, bien entendu, mais c'est vrai que la culture, c'est quand même encore la meilleure carte de visite de la France. Ouais.
Et dans les chiffres que tu donnais tout à l'heure sur les champs culturels les plus soutenus, l'audiovisuel les moins soutenus, et j'ai retenu art visuel et livre.
Tout à fait.
C'est symptomatique aussi, c'est qu'art visuel et livre, peut-être que ça fait partie des domaines culturels les plus facilement accessibles. On a un territoire national complètement maillé par les médiathèques, et finalement, si c'est au livre qu'on renonce en premier, alors que c'est le plus facile d'accès, c'est compliqué.
Oui, même en termes d'accès à la culture, ouais. Démocratisation, culture populaire. Alors, l'importance de cette création de ce biennale.
La biennale, au départ, l'enjeu de départ, c'était un projet qui devait révéler ce territoire de la rive droite. Ça venait à la suite d'une série d'études et puis d'une redécouverte par les habitants et les porteurs du projet Rive Droite.
Du Parc des Coteaux, notamment.
Du Parc des Coteaux, qui était un outil de transversalité incroyable, qui n'existe pas autrement. Ce n'est pas le tramway qui assure la transversalité. Géographiquement, c'est le parc.
Oui, qui fait le lien entre les quatre communes.
Qui fait le lien entre les quatre communes de bassin, ce nom, Floirac et Lormont. Voilà. Donc, au départ, le projet Panorama, c'était ça. Et ce n'est pas un hasard si on a fait le choix de l'entrée culturelle et artistique pour porter ce projet de valorisation du territoire et du patrimoine paysager. Donc la première édition, c'était en 2010. Ça s'est monté dans des délais extrêmement courts qui eux-mêmes relevaient de la performance. Anne-Laure pourra en parler un petit peu. Et c'était un projet qui était écrit en quatre éditions, 2010, 2012, 2014, on y est, 2016.
Donc la troisième au mois de septembre.
Voilà,
fin septembre.
Pour servir ce projet de révélation. Voilà, si au bout de quatre éditions, on a bien fait le job, ben finalement, opérateurs, villes, publics, individuels, familles se seront saisis de ce territoire pour y développer de nouveaux usages. Voilà. Sophie Trouillet, qui avait lancé l'idée de ce projet.
Bon, Sophie, voilà, qu'on salue, qu'on connaît bien, voilà. Et qu'on salue si elle nous écoute.
Avait dit, ben voilà, on est aussi dans une période où finalement l'État se désengage un peu partout. Donc peut-être qu'un jour on aura, je le souhaite pas, Patrick, mais plus de salles de spectacle, plus de salles d'expo, etc. Ben, servons-nous de l'espace public, de ces 400 hectares aussi, qui sont singuliers dans leur configuration, dans leur paysage, pour y inventer des choses différentes en termes d'usage culturel, artistique et de loisirs aussi. Voilà. Et c'est pas un hasard que ça se déroule sur un calendrier biennal. D'abord, c'est une périodicité qui convient assez bien au paysage dans lequel s'implante cette biennale-là. Le paysage ne se transforme pas en trois mois, mais quelquefois, il y a des travaux d'aménagement, de rénovation du paysage qui doivent mettre 2 ans pour se découvrir et se révéler. Et puis, c'est surtout une temporalité qui nous laisse le temps de gérer les entre-deux, bien au-delà du temps événementiel qui est important. Mais
oui, il y a tout un travail avec justement la participation des habitants aussi, Charlotte.
L'essentiel, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est ce qui, comme disait Patrick, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui prend beaucoup de temps. C'est ce travail de fourmi long. Mais nous aussi, il faut qu'on voit 600 personnes, 600 enfants dans les centres de loisirs pour en capter 30. Mais on a gagné si on en a 30, parce qu'ils reviendront avec leurs parents, avec leurs... Bon, voilà, et puis on peut se donner rendez-vous tous les 2 ans, et puis on peut aussi donner rendez-vous tous les mois, parce qu'il y a des ateliers qui se
déroulent. Donc là, il y a vraiment un souci, depuis la création de ce biennale aussi, évidemment, d'inclure la participation des habitants et de travailler directement avec eux, même dans l'intervalle, comme tu dis, entre les 2 ans.
Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, sinon, on fait du one-shot, de l'événement, un événement hors sol qui n'a pas d'avant, pas d'après, qui s'inscrit dans rien, qui pourrait se passer là ou ailleurs. Enfin, voilà. Et c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose dans ces cas-là, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure.
Donc là, ça va, pour l'instant, pas l'inquiétude. La biennale va se dérouler le 27 et 28 septembre. Je sais que vous étiez de sortie aussi hier, peut-être sur la même sortie que Patrick ou sur une autre, mais avec quelques difficultés aussi.
Moi, j'ai été voir un spectacle annulé. Voilà.
Ah bon, vous avez eu l'annulation.
On n'était pas au même endroit. C'est compliqué cette année, oui. Voilà, c'est compliqué. Donc ça oblige en tant que programmateur, opérateur à faire des pas de côté et dans les modes de financement et dans la transformation de l'événement lui-même aussi. Voilà,
sinon, comme Patrick, vous êtes a priori plutôt contre blocage, interruption, annulation d'un festival, d'une scène programmée, d'une manifestation culturelle.
Je trouve ça toujours très violent, comme quand le train qui m'emmène en vacances est annulé parce qu'ils sont en grève.
Après, vous soutenez quand même la démarche des intermittents aussi.
Enfin, voilà, on parlera du statut des.
Oui, des artistes
des
plasticiens, je crois qu'ils pire encore, encore plus précaires que les intermittents, Patrick.
Le statut des écrivains, c'est le même.
Bah, bien sûr,
Et effectivement, et si demain les écrivains s'arrêtent d'écrire, ça marquera pas aussi fort. Donc. Peut-être qu'il faut trouver là aussi. Il va falloir qu'on fasse une bascule sur notre façon de programmer, d'inviter les artistes, de les faire intervenir, et de les diffuser. Peut-être qu'il y a aussi des recettes, d'autres recettes à imaginer pour être là aussi dans la médiation. Quoi.
L'année dernière, c'est vrai qu'entre les deux, il y a aussi beaucoup d'événements. En plus de ce travail avec des ateliers, on reviendra sur cette ouverture d'un QG à Lormont. Mais Charlotte, l'année dernière, on avait vu Barabbas arriver la fin août.
Barthabas,
excusez-moi. Barthabas, c'est autre chose, c'est une autre référence. Donc Barthabas, évidemment, pour tous les amoureux des chevaux qui le connaissent bien. Donc on l'avait vu arriver sur la rive droite. L'année dernière, il y aura une tête d'affiche cette année où on reviendra sur le programme en détail.
On n'était pas du tout dans la logique tête d'affiche. Enfin,
c'était presque un cadeau qui était tombé du ciel à ce moment-là.
Il faut savoir ne pas travailler tout seul aussi. Barthabas était en résidence à Bègles, était invité à Bègles dans le cadre de l'été métropolitain. Donc ça faisait plusieurs acteurs en jeu. Bègles, la Cube. Nous, on était sur une
année. On se rappelle, c'était le lever de soleil avec Barthabas.
Entre deux panoramas. Et voilà, c'est aussi ces occasions-là qui font que c'est intéressant de travailler à plusieurs et d'échanger nos. La logique, c'était pas d'avoir une tête d'affiche.
Bon, voilà. Très bien. Et cette année, on retrouvera des manifestations culturelles un peu sur les quatre communes.
Alors, cette année, on a organisé notre programmation un petit peu différemment, mais on va en voir partout.
On y revient, Charlotte. Un mot avec Anne Lorboyer, notre artiste sur le plateau pour parler de la culture. Mais voilà, c'était mieux. Donc, on est très heureux de vous recevoir, Anne Lorboyer, d'autant plus que vous avez déjà participé, collaboré avec Charlotte sur cette biennale Panorama, d'ailleurs, je crois.
Qu'avec le rocher de Palmer, dont j'ai filmé la construction et la genèse du bâtiment.
Voilà, mais on s'était croisés à ces occasions-là, Anne-Laure, il y a déjà quelques années. Alors, on l'a dit, vous êtes artiste plasticienne et bon, vous avez fait évidemment de nombreux travaux, mais vous travaillez quand même sur cette rive droite depuis quelques années, depuis 2008, on l'a déjà dit. Alors c'est vrai que on en parlait avec Patrick Duval et Charlotte Uny de ces difficultés liées au changement du statut des intermittents du spectacle, mais c'est vrai quand on parle du statut des artistes plasticiens, j'ai envie de dire c'est presque pire, quoi.
Et en fait,
vraiment un statut d'ailleurs.
Alors moi, j'ai pas tellement envie d'intervenir sur cette question.
D'accord.
Parce que
vous voulez pas vous apitoyer sur votre source, c'est très bien.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on vient de parler de beaucoup de choses et ça, c'est une question un petit peu particulière. Et moi, j'ai pas envie de me borner à une question particulière pour l'instant parce qu'on a dit des choses assez fondamentales.
Vous sentez pas solidaire des autres artistes non plus.
Laissez-moi terminer, s'il
D'accord.
vous plaît. Donc, on vient d'évoquer des choses assez fondamentales et j'ai envie aussi de réagir sur ça.
On vous écoute.
Vous avez introduit la définition de la culture en faisant un rappel sur ce que ça veut dire que culture, ça vient du mot coléré. Donc vous avez
l'analogie donc entre l'agriculture et la culture de l'esprit.
Voilà. Donc la culture, ce serait le travail de l'esprit, ce serait des loisirs, ce serait l'enrichissement de soi.
Au sens romain.
Au sens romain.
Qui nous éloigne un petit peu d'aujourd'hui.
Du coup, la question à travers ça, moi je pense que il faut aussi réussir à élargir pour reprendre un peu les fondamentaux, parce que c'est aussi une question d'identité. La culture, c'est pas un surplus, c'est pas un loisir que les riches peuvent se payer. La culture, tout
c'est
le monde
luxe,
l'a en
alors.
Soi. Tout le monde l'a en soi, n'importe quelle personne, dans la façon dont elle parle, dont elle bouge, dont elle se coiffe,
dont elle s'habille, dont elle s'exprime,
elle a une culture. Et là où les artistes peuvent intervenir, c'est qu'ils amplifient cette culture, ils la donnent à avoir et à percevoir à puissance 10 000, parce qu'ils travaillent avec des amateurs dans des ateliers, parce qu'ils sont aussi des transmetteurs et des passeurs de ces cultures qu'ils valorisent dans des lieux qui sont dédiés. Voilà, donc ça, c'est aussi pour reposer les fondamentaux et dire que c'est pas un luxe. La culture, c'est aussi ce qui fait le lien et le socle d'une société dans laquelle chacun peut porter une culture bien différente et qui doit aussi pouvoir communiquer entre les personnes. Et c'est là où les lieux sont des espaces très importants, les lieux de diffusion de la culture, mais aussi l'espace public. Alors là où j'ai envie de rebondir aussi, c'est par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, à propos des modèles subventionnés de la culture. On a dit peut-être qu'il faudrait revoir ces modèles subventionnés. Alors quand on dit ça, est-ce qu'on suppose que ces modèles sont inefficaces en soi ? Est-ce qu'on suppose que ça ne marche pas ? Est-ce qu'on suppose qu'il faut arrêter de financer avec les politiques publiques et les financements des contribuables des lieux culturels ? Je pose cette question et j'ai envie de la poser très très fort et de dire encore une chose très très importante, je n'ai pas fini. On dit qu'il faut faire des économies sur la culture, mais on sait très très bien que c'est un des budgets les plus faibles par rapport à tous les budgets qui sont alloués sur les différentes choses, l'armement, ce que vous voulez. Donc c'est une hypocrisie de dire qu'on va faire des économies pour l'ensemble de la société si on fait des économies sur la culture. Donc ça, c'est intolérable. C'est un argument complètement hypocrite. Ensuite, je trouve que c'est aussi particulièrement scandaleux de ne pas réévaluer les politiques publiques culturelles quand on voit sur quoi elles investissent. En Aquitaine, on a un exemple très concret et absolument monstrueux qui va bientôt sortir de terre. C'est l'agence culturelle. C'est toutes les agences culturelles qui vont être regroupées.
Alors, monstrueux,
sur l'ancien
dans quel
site,
sens,
sur
alors,
l'ancien site des abattoirs. Ben, écoutez, je suis désolée. Moi, pour travailler dans le milieu associatif culturel à Bordeaux depuis 2008, on nous dit sans arrêt qu'il n'y a plus d'argent nulle part. Par contre, il va y avoir un bâtiment architectural absolument splendide.
En termes d'investissement.
Ce bâtiment est absolument merveilleux.
Immobilier, quoi.
C'est une merveille architecturale
qui
fait
cher,
absolument...
C'est ça,
voilà.
Coûte trop cher, à votre avis, c'est ça ?
Eh ben, ça pose la question de savoir dans quoi on investit. Est-ce que les élus investissent dans leur représentation en créant une vitrine de béton absolument luxueuse dans laquelle on ne pourra mettre aucun contenu artistique ? Alors, je précise que les artistes plasticiens, généralement, ne sont pas rémunérés quand ils exposent. Donc ça veut dire qu'on rémunère toutes les personnes qui s'occupent du bâtiment, depuis le directeur jusqu'à la femme de ménage. Mais par contre, le plasticien qui expose dans ce bâtiment et qui remplit ses boîtes de contenu et qui leur donne un sens, lui, il n'est pas payé.
Ah, merci. Alors, vous donnez quand même quelques indications sur votre statut,
donc,
effectivement,
qui
a l'air
les
assez précaire. Mais Jacques Brunet, vous voulez poser une question ? Et Jacques, allez-y, pour l'écho des collines.
Mais je voulais revenir un tout petit peu en arrière pour parler de petites communes. Il y a les quatre grosses communes du GPV, mais il y a aussi des petites communes avec des changements politiques, c'est arrivé, et des changements de politique culturelle qui m'interrogent. On n'a pas fait suffisamment le travail de base auprès des habitants, bien sûr, mais c'est pas facile, sûrement. Mais quand je vois, par exemple, que dans une commune...
près de chez nous,
on
Jacques
a, oui, tout près de chez nous.
On peut la nommer, peut-être.
Oui, pourquoi pas, Artigues. Artigues, bon. Je vois, bon, on a estimé que le programme précédent était pas assez accessible au public. Alors, c'est possible, mais est-ce que une manifestation culturelle a pour but de plaire au public? Enfin, moi, je me souviens d'un art et paysage qui avait un petit côté critique, bien sûr, qui a mené à poser des questions. Par exemple, c'était sur les pavillons. Les pavillons d'Artigues, ça avait frappé les artistes, là. Et, alors, il y avait... C'était un peu caricatural, mais enfin, ça interrogeait une maisonnette avec son jardin. Et puis, tout était... on ne pouvait pas y entrer. Quoi. Voilà, c'était l'isolement dans la banlieue pavillonnaire. Quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, quoi ? La culture, c'est aussi pour qu'on se pose des questions.
Oui, alors effectivement, on va dire que c'est un peu le propre aussi de l'expression artistique, c'est de mettre en question tout un chacun. Alors peut-être rebondir sur les questions d'Anne-Laure Boyer qui me semble intéressant, peut-être Patrick, sur justement cette question de la culture subventionnée, elle faisait allusion à un de vos propos. Effectivement, doit-on continuer ou pas à subventionner? Ça revient un peu à se poser effectivement le prix de la culture finalement. Est-ce qu'on paye le vrai prix de la culture et comment on peut apprécier finalement cette efficience de la culture, et aussi les investissements par rapport à ce que vous disiez, cet investissement immobilier qui paraît démesuré alors qu'on est en même temps en train de dire qu'il faut réduire tous les budgets. Et encore la question qui se rajoute de Jacques, on le voit avec des changements effectivement, suite à des élections, des changements de majorité, mais il y a des manifestations qui étaient implantées quand même depuis maintenant de nombreuses années dans le paysage culturel qui vont disparaître du jour au lendemain. Donc prétextant qu'effectivement le public, les œuvres n'étaient pas assez accessibles au public. Hugo Hamès, peut-être une autre question pour Patrick, du coup.
Pour rajouter à ça, on peut se poser la question de est-ce que la culture, est-ce que la politique culturelle est de gauche ou de droite? Le cas d'Artigues se passe au un changement de majorité, un passage à droite. On peut parler aussi des Odyssées d'Ambès qui est passé à droite. À la Cube, dont l'été métropolitain est très... a un avenir en tout cas très, très sombre. Est-ce qu'il y a une politique culturelle de droite et une politique culturelle de gauche?
Je pense que Charlotte et Patrick, mais Patrick peut-être, et Charlotte en suivant, vous êtes bien renseigné sur ce sujet.
Bah non, il n'y a pas de politique culturelle de gauche et de droite, quoi. Malheureusement peut-être, ou heureusement, j'en sais rien. Dans tous les cas, les choses sont plus complexes. Titre personnel, ça ne me choque pas que des élus remettent en cause une manifestation. Je parle pas d'Artigues précisément, je connaissais pas la manifestation en question. Sur le fait que il y avait peut-être pas, en disant il y a pas d'ancrage local, etc. Enfin, ça repose la question du travail qui est fait avec la population. Moi, j'en reviens toujours à, moi c'est très basique. Je pense qu'effectivement l'élitisme en matière culturelle ça n'existe pas, ça n'existe. Il y a rien d'élitiste, absolument rien. C'est juste les conditions dans lesquelles on accède à ça qui peuvent l'être, le rendre ou pas le rendre. Voilà, c'est tout. Je veux dire. Moi, je sais pas. Je prends parfois l'exemple de la Fondation Bernard Magret. Je veux dire, où quand on arrive, on est bien accueilli, on est guidé. Je veux dire, pour moi qui suis complètement néophyte en art contemporain, c'est un vrai bonheur d'aller là-bas. Voilà.
Il y a d'autres conférences, un programme de conférences exceptionnel.
Je ne veux pas citer l'autre grand lieu consacré à l'art contemporain, mais on y est beaucoup moins reçu, beaucoup moins traité. Si on n'est pas un spécialiste, effectivement, on a un petit sourire ironique à l'entrée, etc. Donc, je veux dire, c'est tout. C'est le CAPC, par le passé, a fait de gros efforts. Moi, je me rappelle d'habitants de Floirac qui avaient passé une journée au CAPC et qui avaient passé une journée formidable.
C'est plus d'actualité, apparemment.
On ne peut pas dire que ces dernières années, il y a eu beaucoup de flottements, mais les choses sont en train de changer. Il y a une nouvelle directrice qui vient d'arriver. Donc, on va voir, il faut lui laisser un peu de temps.
Bien sûr, c'est
une question de volonté de la directrice, je pense que c'est dû aussi à un manque de moyens. Parce que la médiation, c'est aussi un travail en soi pour lequel il faut des équipes.
Le CAPC, c'est pas une équipe de 20 personnes, hein, c'est quand même 70 ou 80 personnes.
Pour le coup, il y a des moyens humains, c'est ça, Patrick?
Il y a du monde. Après, la question des moyens humains, oui, je crois qu'après, c'est une volonté. C'est-à-dire que la question de la médiation d'abord, c'est pas une personne, ce que j'explique aussi. Au Rocher, je veux dire, si c'est l'ensemble de l'équipe du Rocher qui fait de la médiation, c'est pas juste Zoé de la Taille. Si c'est juste Zoé, on va dans
le mur. Que l'on salue au passage.
Non, mais je veux dire, si Pauline qui est à l'accueil, Clémence à la comptabilité qui va faire les conventions avec les associations, elle est pas disponible, elle prend pas le temps, etc. Mais ça peut pas marcher. Donc je veux dire, la médiation, c'est une affaire. Enfin, c'est l'affaire de toute l'équipe. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Donc, ça veut dire
aussi. La médiation, c'est aussi un choix politique. La politique, c'est pas juste une question de moyens.
C'est du travail en interne aussi. Ça veut dire c'est beaucoup de temps aussi passé en équipe, à discuter, à échanger. Enfin, c'est tout ce travail-là. Bon, voilà.
C'est une orientation clairement définie. Bien sûr, on va vers ça.
Bien sûr, voilà. Donc. Et juste pour les exemples qui ont été pris, Artigues, la communauté urbaine de Bordeaux sur l'été métropolitain, la remise en cause de l'été métropolitain est sur est un petit peu différente. Il ne s'agit pas de, je crois que dans le contenu n'est pas remis en cause. C'est juste le fait que la communauté urbaine n'a pas de compétences culturelles. On en revient toujours à la même chose. Donc, je veux dire, c'est aujourd'hui, quelle est la légitimité de la CUP tant qu'elle ne s'est pas dotée de compétences culturelles de de porter des événements de dimension d'agglomération. Voilà, c'est juste ça la question. Alors, il y avait une entrée qui était intéressante, qu'avait lancé Vincent Feltès, c'était cette entrée par des événements qui relèvent de l'agglomération.
Et Panorama, en
des
fait événements, partie.
Oui, bien sûr, Festival de Haute-Garonne aussi.
Festival de Haute-Garonne, on reviendra sur la programmation. Voilà.
Effectivement,
ça, 5 minutes,
hein. C'était intéressant comme entrée. Mais effectivement, c'est pas suffisant. On voit bien les limites. Et aujourd'hui, je crois que la question qui va être posée à partir de 2015, c'est-à-dire de la métropole, c'est la question structurante des équipements. Et là, on rentre dans le vif du sujet.
D'accord.
Voilà.
Un mot peut-être sur juste avant de passer la parole à Charlotte, sur la culture subventionnée, justement.
Oui,
alors, lancer une bouteille à la mer, est-ce que tu veux la reprendre?
Oui, bien sûr. Il s'agit pas. Moi, c'est juste qu'à un moment, j'aimerais bien qu'il y ait une refonte du cahier des charges des uns et des autres. Et surtout qu'il y ait des vrais cahiers des charges. C'était pour les équipements culturels. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et je pense qu'à un moment, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que sur ces questions de travail en direction des populations, etc., je pense qu'il faut que ça soit clairement inscrit dans les financements du ministère de la Culture ou de la région ou du Conseil général, etc., devraient être, je dis bien devraient être, conditionnés à cette dimension-là. C'est tout. C'est avec une vraie évaluation derrière. Voilà, c'est tout.
Comme c'est fait, par ailleurs.
Anne-Laure a complètement raison sur les investissements qu'on peut qualifier de pharaoniques.
Alors, monstrueux, j'ai entendu, je crois.
Oui, ou monstrueux. Moi, je viens de dire pharaonique. Mais alors, effectivement, alors là, on a culture de gauche et culture de droite. Donc, tout le monde va être d'accord. Culture de gauche, puisqu'effectivement, il s'agit d'un bâtiment initié par le Conseil régional
tout
qui coûte plus de 50 millions d'euros. Et culture de droite avec le futur musée du vin qui va coûter 55 millions d'euros. Voilà.
Oui,
donc, je veux dire, comme quoi, il y a de toute façon, effectivement, il y a de l'argent quand on veut. Parce qu'au-delà des moyens qui sont mis sur l'investissement, il ne faut pas nous raconter d'histoires. Là, on nous en raconte des histoires. On nous dit, oui, mais c'est l'investissement. Toujours pareil, l'investissement, on trouve toujours les moyens. Oui, mais après, il va falloir du monde pour faire tourner ces lieux. On connaît très bien les effectifs. On connaît les effectifs d'Éclat, du FRAC et de l'OARA. On sait très bien que ce n'est pas ces trois équipes qui vont... Moi, je sais ce que c'est d'ouvrir un lieu. À Musique de Nuit, on était 4, on avait des bureaux. Ouais. Aujourd'hui, on est 17 et on ouvre un lieu. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut constamment des gens à l'accueil. Il faut constamment... il y a un travail d'accueil, de surveillance. Enfin, on ne peut pas faire la programmation. Et en même temps, regarder qui rentre par la porte. Ça, ça ne marche pas. Et là, c'est pareil. Il va falloir accueillir. Enfin, forcément, il va y avoir des recrutements de personnel. Et l'inquiétude du secteur, je le dis parce qu'il y a un certain nombre de réunions houleuses avec le secteur culturel, c'est que ça se fasse au détriment des financements pour les structures culturelles.
D'accord. Alors, Charlotte Uni, Panorama. Alors, justement, Panorama.
Je peux juste rebondir deux minutes.
Allez-y. Charlotte, on vous écoute.
On parlait d'Artigues tout à l'heure. S'il y a bien un festival, un événement qui a depuis le départ axé tout son travail sur la médiation avec des classes de toute la rive droite, de Bordeaux, de plus loin, et avec une personne qui avait monté cette équipe de médiateurs et qui était totalement investie.
C'est bien l'équipe
d'Art et Paysage. Voilà. Et donc, en cascade, une ville, pour des raisons que je ne discute pas, mais annule une manifestation. Donc, mais à la marge, une quinzaine d'artistes qui avaient commencé à bosser, une équipe de médiateurs qui bossait déjà avec des groupes, et puis donc du coup des publics, et puis d'autres événements avec lesquels Art et Paysage devait coproduire des pièces que cet autre événement, Panorama en l'occurrence, peut pas porter tout seul. Il y a un certain nombre de décisions, qu'elles soient de gauche, de droite, on s'en fiche, mais il y a un effet cascade. Et ce qui est curieux, c'est que la culture, ça a été, sur ces campagnes municipales, un enjeu extrêmement fort de la campagne. Ils se sont tous écharpés, et là, je parle au niveau bien plus vaste que l'hyper-local. Mmh. Mais par contre, une fois qu'ils sont là, c'est moins un enjeu. Les élus portent moins la question des intermittents, des plasticiens, de l'ouverture des lieux. Au national, voilà. Bon, donc.
Alors Panorama.
Bon,
quand
donc
on
Panorama.
Parlait du, quand on parlait de l'importance du politique justement dans les orientations culturelles, je crois que savoir que quand même Panorama, il y a quatre maires qui sont penchés sur ce berceau. Quoi,
il y a quatre
Charlotte.
Maires qui ont envie qu'il se passe quelque chose d'un petit peu différent en termes d'action culturelle, de médiation culturelle et d'événements artistiques. Donc on a bien de la chance qui font font corps et qui jouent vraiment le jeu de l'intercommunalité sur ce portage-là. On joue sur 400 hectares, c'est un sacré terrain de jeu, c'est énorme, voilà. Qui nous ont accompagnés dans cette démarche de médiation et de récits à raconter aussi d'une édition à l'autre. Ils sont les premiers demandeurs de ça. Ils nous renvoient régulièrement des informations quand ça va pas, quand c'est pas assez. Donc ils sont très très porteur de ces intentions-là. Et on a eu une sacrée chance cette année, justement, pour aller au bout de cette volonté, c'est de pouvoir installer un quartier général, le QG.
Voilà, à Lormont, donc.
Hein. À Lormont, dans le quartier Bois Fleury, dans un...
Quartier
dans,
complètement rénové, on peut dire.
Complètement rénové. Il y avait les trois tours de Génicard, oui. Jusqu'à il y a deux ans. Il y a eu...
Qui concentrait un certain nombre de problèmes, on va dire, hein, encore.
Qui se concentrait un certain nombre d'habitants.
Oui, oui.
C'est bien de parler des gens avant de parler des problèmes.
Oui, 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 bien sûr. Mais
Depuis deux ans, il y a rien. C'est un champ de cailloux. Voilà. Et en octobre-novembre 2014, va démarrer un chantier sur des maisons, des logements-ateliers pour professions créatives. Donc au sens large, ceux qui rapportent tant d'argent... au PIB, oui. Voilà.
Tout à fait, on a reçu d'ailleurs le collectif voilà. D'architectes et d'artistes qui sont venus présenter ce projet.
Entre les deux, entre le rien et le début du chantier, c'était intéressant et pour nous, Biennale, d'avoir un lieu identifiable. Jusqu'à maintenant, on fabriquait ça dans la résidence Beaucide, qui n'est pas accessible ni aux artistes ni au public, enfin, qui n'est pas identifié. Donc nous, on avait besoin d'un lieu pour rendre compte justement de tout ce qu'on fait entre deux éditions et de comment on y va.
Donc c'est le QG, on va dire, le quartier général un peu. Hein, bon.
Et puis l'aménageur Aquitanis avait aussi, lui, besoin de préfigurer, d'anticiper sur ce qui pouvait s'y passer après. Donc voilà, nos deux besoins et envies se sont bien rencontrés. Donc on s'est installé là-bas depuis le mois de mars. Ça a été précédé par un long travail sur 6 mois avec toutes les associations de quartier. Moi, je sais faire mon métier de programmateur culturel, mais je ne sais pas faire le leur. Et je ne pouvais pas arriver parachuté complètement. Il fallait que dès le départ, dès le début du chantier, on soit identifié. Et voilà, donc, on a fait embaucher, par exemple, avec la JAG, sur le chantier de montage, 3 jeunes du quartier. On a travaillé avec la région.
L'association Angelès-Haute-Garonne, oui, voilà. La JAG. Hein.
3 jeunes du quartier, dont un qui a eu la possibilité d'un contrat d'insertion. C'est ça aussi, les métiers qu'on porte dans la culture. On travaille avec le point accueil jeune, avec la médiathèque de la ville de Lormont, l'école de musique. Voilà. Et on continue à travailler avec nos partenaires culturels historiques, dont le Rocher, puisqu'on a lancé la première édition au moment où le Rocher ouvrait. Voilà. Donc c'est un lieu qui devient essentiel pour le portage de la Biennale. On organise par exemple tous les derniers vendredis du mois. Le prochain rendez-vous, c'est le 27 juin, un pique-nique barbecue partagé autour du QG avec les habitants du quartier, les familles, les gamins qu'on vient voir, qui viennent nous voir en atelier, les artistes de Panorama, le public de Panorama. Ça fait un mélange hyper intéressant et ça c'est culturel, voilà. Là, on est en plein dans ce travail de médiation, d'appropriation, et voilà, ça fait culture.
Très bien. Donc, un programme qui s'étale, ce qu'on va dire, on a dit qu'il part du mois de mars, qui va s'étaler tout l'été jusqu'au fin septembre.
Alors là, si on prend les prochaines dates, oui, prochain rendez-vous le 21 juin, fête de la musique. On accueille au QG des programmations portées par la ville de Lormont, l'école de musique, le point accueil jeune. Le 27 juin. Rendez-vous pour donc notre pique-nique barbecue avec des restitutions de travail, de travaux d'artistes en cours.
Voilà, résidence d'artistes aussi, Charlotte.
Suzanne Husky qui arrive en résidence lundi prochain. Elle est embarquée dans la nouvelle aventure d'Anne-Laure Boyer pour Panorama, c'est Jardin Secret.
Alors un mot justement, Charlotte, sur la programmation d'Anne-Laure Boyer sur cette biennale. Alors c'est pas la première programmation sur cette biennale, mais bon, c'est un artiste auquel vous êtes attaché. Alors en parlant de sa présence, c'est difficile.
Cache-toi sous la table. Je pense qu'elle est à la fois attachée au territoire et inversement. Et elle a lancé en 2008 à Floirac, elle y reviendra. Moi, c'est plutôt à elle d'en parler. Un projet qui du coup a une logique dans les suites qu'on lui donne sur chaque édition de Panorama. Et avec Anne-Laure et...
Donc c'est l'artiste à suivre sur cette
biennale. C'est notre artiste fil vert, en fait. Voilà. C'est joli. Hein.
Alors Anne-Laure, peut-être un mot, Charlotte, à moins que tu voulais rajouter quelque chose, peut-être Charlotte.
Juste que c'est un projet qu'on a démarré sur une proposition artistique d'Anne-Laure à l'été 2013 pour aller jusqu'à Panorama 2014. Donc on en revient encore à cette histoire de porter les projets en amont. Voilà. Mais après, pour rentrer dans le détail du projet, c'est mieux que t'en parles.
Alors Anne-Laure, justement, alors, qu'en est-il de ce projet, de la continuité finalement de votre programmation sur cette biennale?
Alors en fait, Jardin Secret, c'est un projet de cartographie. L'idée, c'est de découvrir un petit peu les légendes urbaines du parc des Coteaux, des parcs du Coteau, parce qu'il a des facettes vraiment multiples. Et c'est vrai que si on commence à regarder un peu les usages secrets, cachés, alternatifs, temporaires, invisibles, les rumeurs, les restes architecturaux qui nous parlent du fait qu'autrefois, c'était pas des parcs, c'est pas des espaces qui ont été dessinés pour être des parcs, en tout cas pas tous. Certains oui, d'autres non. Il y a vraiment toute une variété d'espaces qui sont là, mis en présence.
Et certains qui étaient privés d'ailleurs encore il y a quelques années, oui. Qui sont devenus publics par
d'autres
la suite.
D'autres qui sont encore privés, ouais, qui le vont sont incessamment sous peu enfin devenir publics, en tout cas on l'espère, notamment le parc de l'Observatoire à Florac, par exemple. Du coup, pour explorer un petit peu toutes ces facettes, la proposition que j'ai faite à Panorama, c'est de travailler collectivement avec trois autres artistes. Donc on est quatre, et en quelque sorte, on est aussi quatre parce qu'il y a aussi quatre communes. Et c'était aussi l'idée de pouvoir, à travers chaque artiste, passeur, compagnon de voyage, révéler un certain nombre de points de vue possibles sur ces territoires qui sont vraiment multifacettes. Et donc parmi ces personnes, il y a des gens qui sont d'ici depuis très longtemps, comme Yvan Détraze, qui est un des cofondateurs du Bruit du Frigo, et qui fait partie des personnes qui ont
jalonné un peu ce parc des Coteaux
qui l'ont
il y a quelques
jalonné,
années.
Tout à fait, et qui en ont révélé le potentiel en termes paysagers. Donc c'est quand même pas rien. Comme autre explorateur, on a aussi Guillaume Hilleret, qui est un artiste plasticien qui a pendant très longtemps créé et animé le lieu d'art à suivre dans le quartier Nansouty, qui malheureusement a fermé il y a quelques années. Et il y a aussi Suzanne Husky, qui elle est une artiste qui a fait l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, mais qui ensuite est partie. Elle est franco-américaine et elle a un regard aussi extérieur. Elle est à la fois dedans et dehors. Donc c'était aussi cette idée que chacun de nous puisse ensuite investir un aspect particulier de ce territoire et travailler avec des groupes de personnes. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec le lycée professionnel de la Morlette sur une carte sensible. Oui. Voilà, sur une carte sensible du parc Palmer. Il faudra peut-être que je raconte à Patrick un peu plus en détail ce qu'on a fait, parce que ça pourrait peut-être l'intéresser.
Bon, très bien. Après l'émission, on va poursuivre.
Voilà. Et donc, l'idée, c'est de donner à voir un petit peu les espaces ressentis aussi, de donner une autre perception de ces lieux. Voilà.
Alors Charlotte Uni, on le disait, donc les dates de la biennale, ça sera le 27 et le 28 septembre, donc des nuits vertes, des randonnées, des créations sonores, des cartographies fantasmées, et des rendez-vous festifs, ludiques,
Charlotte. Et des randonnées aussi.
Voilà. Il y a une nuit verte. 4 randonnées, 4 pique-niques, 3 siestes musicales avec le
donc
rocher.
Donc le rocher, évidemment, sera dans la programmation. Mais oui.
Et le rocher, en fait, on fait un préambule biennal au rocher. Le rocher a invité Panorama. Un des artistes qui travaille sur la programmation de Panorama, c'est Jacques Perconte, qui est un vidéaste bidouilleur d'images. Et il se trouve que Jacques Perconte accompagne Jeff Mills, qui est un des papes de la musique électro, sur des pièces, enfin sur un live son et images. Et donc c'est le rocher, c'est tout, ça sera au rocher le 24 septembre.
Le 24 voilà. septembre, donc rendez-vous, noté sur l'agenda, 24 septembre, Rocher le Palmer, ça sera vraiment le préambule quoi, de la biennale.
Et on a le programme complet, les actus sur le site biennale-panorama.fr. Un très beau site.
Très bien. De toute façon, Charlotte, on se recalera évidemment une émission au mois de septembre pour revenir en détail sur cette programmation de la Biennale Panorama. Peut-être un mot, Patrick, juste avant de conclure cette émission, il doit nous rester 3 minutes. Un mot quand même sur ce festival qui a marqué et qui continue encore aujourd'hui à s'inscrire et marquer son territoire. Je veux parler du festival des Hauts-de-Garonne. Alors, je ne sais plus, on en a à la combien d'éditions ? 20e passé ?
21e.
21e, ouais. C'est ça,
je crois.
Patrick. Donc, alors, ça arrive, c'est très proche, là. C'est début juillet, c'est ça
2, 3, 10, 11 juillet. Donc, on démarre à Senon et on finit à Florac. Entre-temps, donc, il y a Lormont le 3 et Bassens le 10, voilà.
Voilà, et toujours sur les 4 communes du GPV.
Sur les 4 communes, plein air, dans les parcs,
etc. Cette année, des nouveautés, des nouvelles figures, des nouveaux artistes, Patrick?
Oui, des nouveaux artistes, oui, bien sûr. Toujours pareil, on essaye de s'attacher à la fois à des gens qu'on ne voit pas trop et puis à d'autres aussi, peut-être qui ne sont pas trop passés par ici. Je pense par exemple à un chanteur de reggae formidable qui s'appelle Winston McAnuff avec Fixie. Donc ça va être le 10 juillet, je crois, sur Bassens, avec en première partie Fanfaraille. Le 11 à Florac, c'est Sistema Solar, groupe de Colombie. Et puis on démarre donc le 2 à Senon avec une soirée orientée vers l'île de la Réunion. Alors il se trouve aussi que le Rocher de Palmar a signé une convention de partenariat avec le Cabardoc, qui est la salle musique actuelle du port à la Réunion. Voilà, mais c'est y a pas de lien avec la programmation, mais enfin, en tous les cas, il se trouve qu'on a une programmation.
Mais c'est vrai que les artistes réunionnais aiment bien ce nom, et notamment
Daniel Waro, etc. Donc là, c'est une soirée avec un trompettiste de jazz qui s'appelle Stéphane Belmondo, qui vit maintenant à La Réunion et qui a monté un projet particulier avec 4 percussionnistes, un percussionniste réunionnais, un malien, un brésilien, je crois qu'il y a un guadeloupéen, voilà. Et puis en première partie, Tiloun, qui était un musicien que j'ai vu justement à La Réunion l'an dernier, qui est un chanteur de Maloya, donc cette musique, ces chants qui ont été longtemps interdits, hein, aujourd'hui qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et qui fait le cachet
de
La Réunion.
Mais qui était interdit, il faut pas oublier que Daniel Waro a quand même fait de la prison à cause de ça, donc c'est pas si vieux que ça. Et donc ce Maloya, qui est vraiment le chant revendicatif, qui était le chant des esclaves, et donc Tiloun, qui est un personnage absolument incroyable. Quand il chante, voilà, on s'approche un peu de la transe, enfin voilà, c'est, donc ça c'est à suivre. Et puis le lendemain, le 3, donc à Lormont, je sais plus, voilà, bien sûr, comme j'ai pas pris mes notes, j'ai
oui,
trouvé dans la programmation.
On les a, de toute façon, on retrouve toutes les infos, Patrick, sur, évidemment, le site,
Le Rocher de Palmer, il y a tout le programme,
on retrouve
détaillé.
Évidemment dans toutes les associations, les institutions, les programmes détaillés, sous forme de petits livrets. Évidemment, on manquera pas, Patrick, nous, d'annoncer tous les rendez-vous du Festival de Garonne sur Ordo Radio.
Alors, moi, c'est un chanteur qui vient du Congo, qui s'appelle Jupiter. Et qui mélange plein de choses, l'afrobeat, le funk, le rap, etc. Voilà.
Voilà, donc on pourra même voir Jupiter au Festival des Hauts-de-Garonne.
C'est pas rien.
C'est pas rien, Patrick. Donc, en tout cas, évidemment, on refera les annonces. On vous invitera pour venir en parler aussi. Puis on sera présent, évidemment, pour faire des reportages ou encore tenir des stands. En tout cas, on vous remercie à tous. C'est Patrick Duval, Charlotte Uny. Ah oui, Jacques, vous aviez encore une question, mais nous avons dépassé le format.
Une question. Je voulais rappeler que Eau Radio a été publiquement lancé à un Festival des Hauts-de-Garonne à Floirac. Tout près du centre social. Hein, c'était la première séance publique, le lancement, il y a 15 ans, 16 ans.
Hein, 18 ans.
Ça ne nous rajeunit pas, Jacques Brunet. En tout cas, on remercie encore Patrick pour son intervention. Patrick Duval, donc, pour Musique de Nuit, le Rocher de Palmer. Charlotte Uny pour le GIF GPV et Panorama, évidemment, la Biennale artistique de la Rive Droite. Et Anne Lorboyer, voilà, pour son travail réalisé sur la Rive Droite. Et puis tout le reste aussi, bien sûr. En tout cas, très bon été à tous, bon festival, et notamment le Festival d'Haute-Garonne, attendant la rentrée, la Biennale Panorama. On remercie tous Aki.fr, le Courrier de Gironde, l'Écho des Collines. On remercie aussi nos techniciens en régie. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle 4 médias. Merci à tous, à très bientôt.